19h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Pourquoi lui ? Un homme tolérant comme Vincent, il n'a jamais provoqué qui que ce soit. Il était dans l'église, on l'a tué pour sa foi. Pourquoi ?
À Nice, la blessure ravivée. La France, de nouveau frappée par le terrorisme. À quelques jours de la Toussaint, 3 morts dans une église.
2 femmes venues prier dans cette basilique Notre-Dame et le sacristain. L'émotion est considérable dans la communauté catholique.
Surveillance renforcée dans tout le pays, en particulier autour des lieux de culte. Alors que l'on en sait un peu plus sur le profil du terroriste, un migrant de 21 ans arrivé en France récemment en provenance d'Italie.
Les modalités du déconfinement précisées ce soir par le Premier ministre et ses ministres, on vous dit tout dans quelques secondes.
Pas de dérogation pour les commerces, tous ceux qui ne sont pas essentiels resteront fermés.
Pas d'exception non plus pour les restaurants qui profitent de cette dernière soirée pour récouler leur stock.
Les Français qui se préparent à de longues semaines de télétravail et cette fois, attention, les entreprises seront contrôlées.
Le paradis sous le soleil, notez qu'en Outre-mer, seule la Martinique sera confinée.
La fin de ce journal, comme chaque soir, nous partirons également aux États-Unis rejoindre Xavier Yvon qui nous racontera les toutes dernières infos de la campagne, les coulisses à J-5.
Et puis un coup d'œil au temps avec la tendance météo, Anissa qui nous a rejoint, de la douceur enfin, et un peu de soleil demain.
Oui, du soleil sur toute la moitié sud du pays, la journée sera vraiment très agréable et de la douceur parce que les températures seront printanières, bien au-dessus des normales de saison. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
4 ans après l'attentat de la promenade des Anglais, la ville de Nice frappait donc une nouvelle fois en plein cœur.
Avec cette attaque qui a fait 3 morts ce matin à la basilique Notre-Dame, 2 femmes et un homme, le sacristain, salarié laïque de la paroisse. Il était chargé de l'accueil des fidèles dès l'ouverture des portes vers 8h30, ce qui explique sa présence au moment du drame, un peu avant 9h. C'est lui qui organisait aussi la bonne tenue des messes ou des cérémonies.
Oui, tout le monde le connaissait. Ce soir, les fidèles comme Laura pleurent cette figure de Notre-Dame.
Je le connais très bien, c'est ma paroisse. Il était tout le temps souriant, il était timide. Il secondait le prêtre, c'est pas que quelqu'un qui fermait l'église et qui ouvrait l'église le matin, non. Vous rentrez à n'importe quelle heure, Vincent était là, il était assis. Il gardait cette église propre et c'était chaleureux, c'était bien chauffé, ce qui fait que d'autres personnes qui n'étaient pas de la même confession rentraient là-bas pour s'asseoir, se reposer. Il les accueillait, il leur donnait de l'eau. Pourquoi lui ? Pourquoi lui qui aimait tant les gens, il ne priait pas ? Un homme tolérant comme Vincent même. Pourquoi notre communauté ? Nous, on n'a rien fait. Vincent n'était pas dans la rue, il n'a jamais provoqué qui que ce soit. Il était dans l'église, on l'a tué pour sa foi. Pourquoi ?
Oui, vive émotion de Laura, une fidèle de la basilique Notre-Dame de Nice, au micro Europe 1 de Frédéric Michel.
À Nice, où toute la journée, l'atmosphère est restée extrêmement pesante. Les Niçois qui auraient bien aimé pouvoir se recueillir, sauf que les églises sont restées fermées toute la journée et que les habitants n'avaient pas vraiment d'endroit où se retrouver ou partager cette douleur, Nathalie Chevance.
Oui, église fermée pour cause d'attentat, voilà ce qui est affiché désormais sur les portes des édifices religieux, comme ici à Saint-Pierre d'Arènes, à quelques centaines de mètres de la basilique, où Martine a tenu à venir s'agenouiller quelques instants devant les marches à l'extérieur, moment de recueillement.
Je vois que c'est fermé, je prie à ma façon. Prier, bien sûr, c'est normal, c'est la moindre des choses, pour ceux qui ne sont plus là, et pour ceux qui risquent leur vie tous les jours, nous tous, pour ce monde de fous. Au contraire, j'aurais ouvert toutes les églises en grand, et peut-être souhaiter voir du monde, histoire de communier pour un monde meilleur, si on peut encore y croire. Dès qu'on entend du bruit maintenant, on se demande ce qui va se passer. Rien d'autre à dire que terrible.
La gorge est nouée et la communauté catholique partagée entre colère et crainte, comme en témoigne le père Gilles Fiorini, doyen des curés de Nice.
Oui, les gens ont peur, je dirais, faut être clair. Nous, dans les églises, on a en gros 30 à 40% de gens qui ne viennent pas. Alors, je parle des croyants pratiquants habituels. On rajoute un attentat dans une église à 2 jours de la Toussaint. J'ai certains de mes paroissiens qui ne sortent pas.
Il faut fermer les églises pour vous ?
Non, justement pas. Parce que ce serait donner raison à celui qui fait le mal. Dire, voilà, on doit vivre ensemble. On va reprendre la force aussi, pour ceux qui croient.
Alors, les églises devraient normalement rouvrir dimanche pour la messe de la Toussaint. Et ce soir, un temps de prière est tout de même organisé sous haute sécurité en la cathédrale Sainte-Réparade.
Nathalie Chevance à Nice pour Europe 1.
Emmanuel Macron s'est rendu sur place en début d'après-midi, il dénonce une attaque terroriste islamiste.
Et il appelle à ne rien céder à l'esprit de division. Justin Morin, cette nouvelle attaque terroriste, c'est précisément ce que les autorités redoutaient.
Oui, la menace était particulièrement sensible depuis dimanche et la publication par une agence de presse proche d'Al-Qaïda d'un appel à commettre ce type d'attentat. Ce message a été pris très au sérieux. Toujours dimanche, dans les heures qui ont suivi sa diffusion, le ministère de l'Intérieur en a informé tous les préfets dans une note de 3 pages que nous avons pu consulter. Le Le texte est on ne peut plus clair. Il alerte sur les risques d'attaques à l'arme blanche, sur des cibles symboliques, y compris les lieux de culte. Évidemment, dans ce contexte, les services de renseignement tentent de détecter, d'empêcher tout passage à l'acte, notamment en renforçant la surveillance des suspects connus, fichés. Mais sur un profil comme celui de l'assaillant de ce matin, c'est beaucoup plus compliqué. Il s'agit d'un homme de 21 ans, un migrant dont on attend encore des confirmations concernant sa nationalité. Il serait passé par l'île de Lampedusa en Italie avant d'arriver clandestinement en France il y a un mois. Conséquence immédiate de cette attaque, Emmanuel Macron l'a annoncé depuis Nice. Tout le territoire passe en urgence attentat, c'est le plus haut niveau du plan Vigipirate. L'opération Sentinelle va être renforcée de 3 000 à 7 000 soldats mobilisés, avec une vigilance particulière autour des lieux de culte et des cimetières ce week-end pour la Toussaint, et lundi autour des écoles pour la rentrée.
Justin Morin du service police-justice d'Europe 1.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
19h07, la suite de votre journal avec Isabelle Millet, évidemment. Et depuis quelques minutes, le Premier ministre est en train donc de préciser les modalités du nouveau confinement annoncé hier soir par Emmanuel Macron, qui rentre en vigueur dans la nuit. Ça y est, Isabelle, on connaît tout le détail.
Oui, alors c'est vrai qu'on avait déjà quand même les grandes lignes. Hein. Tout le monde à la maison, ça c'est confirmé, sauf les enfants qui pourront aller à l'école, au collège ou au lycée et qui devront bien porter un masque dès 6 ans. Alors le brassage entre les élèves sera limité au maximum, que ce soit pour la circulation dans les couloirs par exemple, ou encore les récréations et aussi la restauration hein, qui est maintenue, mais avec si possible une distance d'un mètre entre chaque élève. Les récréations qui seront elles organisées par groupe.
Oui, ça va demander un peu de boulot au directeur d'établissement. Pas de déplacement sans attestation et uniquement pour emmener son enfant à l'école ou pour aller travailler ou pour faire un petit tour. On va revenir d'ailleurs sur le télétravail dans un instant, mais d'abord on attendait de connaître la liste des commerces qui allaient pouvoir rester ouverts.
Et cette liste, eh bien, elle est très restreinte, hein, c'est le moins que l'on puisse dire, Élise Dangean.
Oui, restreinte au fameux commerce dit essentiel, et c'est bien simple, ce sont les mêmes que lors du premier confinement. Resteront donc ouverts en vrac les hyper et supermarchés, les garages automobiles, les kiosques de journaux, les opticiens et évidemment les pharmacies. À noter une nouveauté, tous les commerces de gros pourront rester ouverts. Pour que les professionnels du BTP, par exemple, puissent continuer à s'approvisionner, Bercy y tenait. Cette liste pourrait s'élargir dans 15 jours. Le gouvernement a promis de refaire un point à cette date. En attendant, certains commerçants, comme les fleuristes, plaident pour reprendre leur activité au plus vite, à minima devant leur boutique, avec un argument, les marchés, eux, sont autorisés à ouvrir.
Effectivement, et dans ce contexte, Élise, le gouvernement a donc renforcé son arsenal d'aide.
Oui, et notamment le fonds de solidarité. À partir du 1er novembre, toutes les entreprises fermées qui ont jusqu'à 50 salariés et non plus 10 pourront être indemnisées jusqu'à 10 000 euros par mois. Idem pour celles dans les secteurs du tourisme, de la culture ou encore de l'événementiel, à condition qu'elles subissent une perte de plus de 50% de leur chiffre d'affaires. Pour les autres, ouvertes mais très impactées par ce confinement, l'indemnisation jusqu'à 1 500 euros par mois a été rétablie. Un crédit d'impôt va également être mis en place pour inciter les bailleurs à baisser les loyers imposés aux entreprises.
Élise Dangean du service économie d'Europe 1. Les restaurants vont eux accueillir ce soir leurs tout derniers clients, eux qui avaient tellement souffert lors du premier confinement et qui cette fois ont essayé de s'organiser pour limiter la casse, si l'on peut dire, sachant que les prochaines semaines vont être très difficiles.
Illustration à Nantes avec ce reportage signé François Coulon.
Ambiance liquidation alimentaire dans le quartier du Bouffet à Nantes, le fief des gourmets. Au restaurant Le San Marco, Claudio Bonin en a quasiment un haut-le-cœur.
On jette qu'est-ce qu'il y a en trop. 48 heures pour ça, c'est pas assez long en fait. Toute la nourriture qu'elle a déjà achetée ben, va être perdue. 1 000 euros peut-être. Poissons, les coquillages, les pâtes, beaucoup de choses qui dans un mois, ce n'est plus bon. Fait mal au cœur.
90 couverts gastronomiques à la prison du Bouffet avec une extinction des feux douloureuse ce soir, Eric Vrobel.
Il va y avoir pas mal de pertes, 4 à 5 000 euros. On fait tout maison, viande, poisson, mais il y aura tout. On va servir d'abord le personnel et après on verra avec les associations.
Ils mettent un point d'honneur à ne travailler que du frais. Richard Cornet est à la fois le chef et le gérant du restaurant L'Aménité.
On avait quand même anticipé en se mettant le plus possible en flux tendu. Mais quand même, ça, on fait des produits de qualité donc qui coûtent assez cher. Ces produits-là, on ne pourra pas les vendre, mais on va les donner avec grand, grand plaisir. Il nous reste par exemple de la canette de Chaland, du sileur de Loire, il nous reste beaucoup de légumes, du lait, de la crème, des œufs. On est de l'ordre du millier d'euros.
Quelques établissements s'en sortent mieux. Brutalement pris d'assaut à midi et ce soir, ils videront leur frigo dans les assiettes. Nantes, François Coulon, Europe 1.
Oui, bah bon appétit François Coulon, vous allez vider les frigos avec eux. Alors voilà pour les restaurateurs qui pourront toutefois, c'est important de le préciser, livrer des repas à domicile ou préparer des bons petits plats à emporter que chacun pourra donc venir chercher. Pour les salariés, on le disait, le télétravail sera la règle. 5 jours sur 5, quand c'est possible.
Oui, avec une nouveauté hein, quand même par rapport au premier confinement. Il y aura cette fois, Clément Le Saffre, des contrôles.
Oui, il ne faudra pas essayer de jouer avec les règles. Le gouvernement a prévenu, des contrôles seront menés dans les entreprises dont l'activité est compatible avec le télétravail. Si des salariés sont présents dans les bureaux lors de ce contrôle alors qu'ils pourraient tout à fait travailler de chez eux, l'employeur s'exposera à des sanctions. Sanctions financière, voire pénale, puisque le patron est légalement tenu d'assurer la protection de ses employés. Le salarié, lui, à moins qu'il n'ait vraiment pas d'autre solution, pourra alors être renvoyé à son domicile. La règle est stricte, donc on l'a dit, hein, télétravail partout où c'est possible, 5 jours sur 5 à partir de demain. Le télétravail n'est pas une option, vient de rappeler Elisabeth Borne. Lors du premier confinement, en mars-avril, ça avait concerné 5 millions de Français. Cette fois, il y en aura moins, d'abord parce qu'il y aura plus de commerces ouverts. Et puis les services publics comme Pôle emploi continueront d'accueillir des gens qui pourront venir pour leur démarche. On en saura plus de toute manière sur les modalités de ce télétravail obligatoire ce soir avec la publication du nouveau protocole sanitaire.
Merci Clément Le Saffre.
Dernière info importante, ce confinement en Outre-mer ne sera appliqué qu'en Martinique, où l'épidémie est en forte augmentation. Les frontières intérieures à l'espace européen demeureront ouvertes, mais celles à l'extérieur seront fermées, sauf pour les ressortissants français, à condition d'effectuer un test.
Le Premier ministre qui annonce également à l'instant que les mariages seront autorisés, mais avec 6 personnes au maximum, et les enterrements, pas plus de 30 personnes. Contrairement au printemps, les parcs et jardins resteront ouverts. Par ailleurs, tous les transports en commun fonctionneront. Voilà ce que l'on pouvait dire sur les modalités de ce nouveau confinement. Jean Castex et ses ministres qui poursuivent leur conférence de presse, on vous tiendra informé évidemment des annonces éventuelles ou des précisions dans nos prochains points d'information.
Grosse ambiance mariage à 6. Hein
oui.
Tout de suite, Isabelle, on part aux États-Unis comme chaque soir.
I'm Joe Biden. I'm Donald Trump. And I approve this message. And I approve this
message. Europe won live for the American elections.
Et comme tous les soirs, on vous retrouve, Xavier Yvon, pour votre journal de campagne. Bonsoir, Xavier.
Hello, bonsoir à tous.
Alors on est à J-5 hein, et déjà la Cour suprême a son mot à dire, semble-t-il, sur les résultats.
Et oui, parce que la Cour suprême a autorisé hier deux États-clés à accepter les bulletins de vote par correspondance qui arriveraient après le 3 novembre, qui est donc la date de l'élection. Ce sera jusqu'à 3 jours après pour la Pennsylvanie, 9 jours pour la Caroline du Nord, à condition bien sûr que ces bulletins aient été postés au plus tard le jour du vote. C'est une victoire pour les démocrates qui expliquent qu'en ces temps de pandémie, il faut être le plus souple possible, sachant qu'un nombre record d'Américains votera par correspondance cette année. Et donc, c'est une défaite pour les républicains qui, eux, pensent que plus il y a de délais, plus il y a de risques de fraude. Et ça veut dire que dans ces deux États, si c'est serré, il faudra attendre plusieurs jours avant d'avoir les résultats définitifs.
Bon, ça veut dire, Xavier, qu'il va se préparer à attendre. Est-ce que, à propos d'État, il y en a qui est au centre de l'attention aujourd'hui ? Qui sont au centre de l'attention d'ailleurs ?
Voilà, alors l'État qui est au centre de l'attention aujourd'hui, c'est la Floride, le traditionnel swing state, celui qui donne le plus de grands électeurs et qui, comme à chaque fois, se joue à quelques milliers de voix. Alors Donald Trump et Joe Biden y feront campagne tous les deux aujourd'hui. Meeting avec full compact, comme d'habitude, pour le président sortant. Rassemblement de voitures en mode drive-in pour le démocrate. Et il y a une statistique à surveiller en Floride, c'est celle du vote des latinos. Hillary Clinton l'avait remporté avec près de 30 points d'avance il y a 4 ans. Eh bien, Donald Trump n'a plus que 5 points de retard chez les hispaniques sur Joe Biden pour cet électorat qui est très important.
Allez, on passe au son du jour, Xavier.
Il est signé Donald Trump dans un meeting en Arizona. Le président profite toujours de ses passages pour faire la promotion des candidats locaux et il a appelé sur scène Martha McSally, qui est la sénatrice républicaine sortante du coin, en difficulté dans les sondages. Mais on ne sait pas vraiment si ça va lui rendre service quand on écoute la manière dont le président l'a traité.
Martha, viens ici, vite.
Vite. Fast, come on,
allez,
quick.
Viens vite.
You got one minute.
Tu as une minute. Une minute, Martha.
Come on, let's go.
Allez,
quick, quick,
dépêche.
Quick.
Vite, vite.
Come on, let's go.
Hey, j'arrive.
I'm
merci,
coming.
Président
Thank
Trump.
Voilà, on dirait presque qu'il appelle son chien, hein. Vous l'avez entendu, ça a choqué la presse locale en Arizona. Martha McSally, c'est quand même la première femme pilote de guerre aux États-Unis. Pas sûr que ça aide beaucoup Donald Trump dans sa reconquête de l'électorat féminin.
En effet, pas sûr du tout. On termine, Xavier, avec le chiffre du jour.
Et oui, celui de la croissance américaine qui enregistre un rebond spectaculaire au troisième trimestre, plus 33%. Attention, c'est un trompe-l'œil, disent les économistes. Ça s'explique par les aides massives du gouvernement et le fait qu'on partait de très bas avec la pandémie. Mais c'est un argument en or massif pour Donald Trump qui fait campagne justement sur sa capacité à ressusciter l'économie américaine.
Merci Xavier. Le journal de campagne de Xavier Yvon, c'est tous les soirs à 19h sur Europe 1. Merci Isabelle.
À demain.
On vous retrouve demain, même lieu, même heure. La météo avec Anissa qui nous annonce que le temps eh bien, reprend des couleurs demain.
Et c'est très agréable, effectivement. Grâce à qui ? Grâce à l'anticyclone, ça y est, qui nous rend visite. Ciao les dépressions qui s'en vont vers les îles britanniques et bonjour à l'anticyclone. Et grâce à lui, la journée sera donc très agréable. Le découpage de la France sera assez classique. Demain, avec une frontière au niveau de la Loire. Au nord de la Loire, le ciel est très nuageux toute la journée, avec encore demain matin un risque d'averse sur les frontières belges. Et au sud de la Loire, attention demain matin au brouillard en début de journée. C'est dans le sud-ouest et le centre que les nuages bas seront les plus présents. Et dans l'après-midi, sur toute la moitié sud du pays, le soleil brille, s'impose et la journée est donc très belle dans un ciel dégagé. Les températures, je vous le disais, elles sont douces, dignes d'une fin avril, avec 7 à 14 degrés demain matin. C'est dans le sud qui fera le plus frais, forcément il y a moins de nuages. Du coup, les températures, elles baissent un petit peu.
Bah oui, forcément.
Et 15 à 25 degrés dans l'après-midi. 15 à Charleville-Mézières, 18 pour Paris, c'est vraiment très doux. 21 à Marseille et 25 à Nîmes pour la maximale.
Bien, merci pour ces bonnes nouvelles,
et
Anissa.
Et samedi sera la plus belle journée de la semaine.
Super, on restera chez soi, on pourra regarder le soleil par la fenêtre.
On ouvrira les fenêtres.
Merci Anissa, on vous retrouve demain. Europe 1.